Hé, hey, tonton!
Verveine, verveine.
What's happening? What's happening?
Hey. Underground.
Verveine Underground.
Eric s'intelligente pour contrôler la discothèque.
20h, 22h sur Europe 1.
C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure.
Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous contrôlons les horizontales. Nous contrôlons tout ce que vous allez voir et entendre.
Ça, c'est grave!
Je suis de retour avec ma sous-culture. Ouais, sauf que c'est nous le futur, hein.
C'est nous le futur.
Underground.
Bonsoir et bienvenue dans Verveine Underground. On se retrouve chaque soir sur Europe 1 de 20h à 22h avec des invités qui viennent se raconter en musique. Philippe Tessier me rejoindra tout à l'heure et ce soir je reçois une artiste que j'ai envie de vous faire découvrir. C'est Jany, et Jany c'est ça.
Le soir, en discothèque, il me fait tourner la tête. Le soir, discothèque, il me fait tourner sans cesse. Le soir en discothèque.
Discothèque, c'est extrait de ton album Jany, toujours des fleurs, qui vient d'être réédité. Bonsoir Jany.
Bonsoir.
Bienvenue dans Verveine Underground.
Merci beaucoup.
C'est un plaisir de te recevoir. J'ai découvert, je vais te dire sincèrement, ta musique en traînant sur Instagram.
Ouais, ok.
Je me baladais comme ça et tout, et j'ai souvent des potes qui m'envoient des trucs, et j'ai une copine qui va se reconnaître, qui m'envoie tout le temps des pépites. Et elle me dit, il faut que tu écoutes Jany, et j'ai écouté, et j'ai regardé, et j'ai trouvé ça charmé. Donc bienvenue sur Europe 1.
C'est gentil.
Tu joueras à Bruxelles le 4 mai, tu seras également à la Cigale de Paris le 17 juin,
ouais.
De jeudi à samedi. Tu joues à Lille en première partie de Vienne, tu lui passeras le salam de ma part.
Ok.
C'est lui qui t'a repéré, comment ça s'est passé?
Eh ben ouais, en fait, j'ai vu qu'il parlait de moi sur des interviews il y a un an et demi, deux ans, un truc comme ça. Je crois qu'il avait choisi mon idole en chanson coup de cœur sur un média. Et de ça, on a commencé à se parler un petit peu. Et avec toute la bienveillance et la générosité qu'on lui connaît, la suite de l'histoire s'est dessinée.
Et c'est parti.
Ouais.
Et toi, t'as pas hésité?
Non, hésité? Pas du tout. Ouais. Non.
Je dis ok, on se lance dans l'aventure.
Bah ouais, c'est une chance de
on
faire
des... On est des bouts en train de la musique.
Exactement. En tout cas, bout en train,
pas.
Je sais pas, mais
si,
on est des amoureux
mais
de la musique,
si,
ça c'est
si,
sûr.
Si, c'est un bout en train, Vianney. Tu dis que la musique, c'était comme une vocation, tellement c'était naturel.
Oui, en fait, il y avait toujours de la musique chez moi depuis que je suis toute petite. Donc en fait, c'était très naturel, c'était presque comme faire une activité vitale, quoi. Donc en fait, c'était en moi dès toute petite.
Alors... Jany, tu es née au Mans,
oui,
tu as vécu à Tours.
Ouais.
Chez toi, tout le monde fait de la musique. Tes parents se sont rencontrés dans un orchestre.
Oui, tout à fait.
La première chanson qui t'a marquée, c'est Mon Dieu d'Edith Piaf, que ta mère chantait.
Ah oui.
Et c'est ça.
Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, laissez-le-moi.
Tu t'en souviens?
Ah oui, je m'en souviens.
Raconte-moi, Jany.
Mais en fait, ma maman chantait et elle adorait Edith Piaf. Et je me souviens de cette chanson qui me marquait parce qu'elle était tellement habitée quand elle la chantait. Et c'était tellement merveilleux. Et moi, avec mes yeux d'enfant, sur les nappes en papier des salles, je la regardais avec des yeux d'admiration. Quoi.
À la maison, on écoutait également Christophe, Michel Berger, Bachung, Laurent Voulzy. Tu dis que c'est des chansons qu'on entend généralement dans des salles de fête à la campagne.
Bah oui, je crois que c'est associé pour moi à ça parce que les bals dans mon village étaient très, faisaient partie vraiment de notre culture, quoi. C'était un lieu de rendez-vous, donc elles sont forcément associées à la fête, à la musique et à mes premiers souvenirs. Donc ouais, mais j'imagine qu'elles sont associées à plein d'autres endroits et moments, bien sûr.
C'est quoi ton premier souvenir de discothèque, la première fois que tu es entrée dans un club?
Alors, moi, je préfère les discothèques un peu, pas les vraies discothèques, mais genre les guinguettes ou les petites fêtes comme ça, avec des petites boules à facettes. Mais je crois que le premier souvenir que j'ai, c'est...
T'es plus péniche, tout ça?
Ouais, complètement. Quoi. Après, discothèque pure et dure, j'y vais vraiment au milieu de la nuit avec des copines pour me défouler, mais c'est pas un truc qui m'intéresse vraiment. Je préfère les dancing où il y a un vrai groupe qui joue. Et,
les vrais dancing. Et,
ouais, les vrais dancing, vraiment.
C'est quoi ton premier souvenir où tu as dit « je suis bien dans ce dancing »
Alors, il y en a deux. Je crois que c'est à la Guinguette de Rochecorbon. Mes parents allaient souvent ensemble. Je les voyais danser. Et puis ensuite, la Guinguette de Tours. Il y a une sublime guinguette sur les bords de Loire où tous les étés, il y a des soirées tout le temps et tous les jeunes se retrouvent. Et ça danse et c'est trop bien, quoi.
Pendant ce confinement, ça nous a tous manqué d'aller danser.
Complètement.
Qu'est-ce que ça a comme pouvoir magique, la danse ?
Déjà, c'est très lié à la musique. Donc moi, ça me parle beaucoup. Et je crois qu'il y a, une sorte de désinhibition des émotions, du corps, qui, je ne sais pas ce que ça, physiquement, ce que ça provoque, mais je crois que c'est une façon de s'exprimer et de d'avoir un lien avec la musique très fort.
Tu te souviens de ta première fête post-confinement ? Si c'est une bonne fête, en général, tu t'en souviens pas.
Ben, franchement. alors, ça a dû être une très belle fête.
On dira que c'était une très bonne fête.
Voilà.
J'aimerais qu'on écoute un extrait de ton album Toujours des fleurs, et c'est le morceau Petite Blonde.
Petite Blonde, ne fais pas de vagues.
Petite Blonde de Jany. C'est un morceau sur les injonctions qui sont faites aux femmes. Dans les paroles, tu dis « Petite Blonde, ne fais pas de fable, rentre dans le moule, reste sage, mais moi, je trouve pas ça normal. Tout le monde doit t'aimer comme tu es. » Ça m'a fait penser dans la structure de rime à Petit Frère d'Ayam. Parle-moi de ce morceau, en fait.
Alors, je pense que c'est plus que les injonctions faites aux femmes, c'est les injonctions tout court. C'est, toutes les injonctions qu'on peut mettre sur les enfants. Et toutes les différences qu'on a de toute façon qui sont là et qui sont inhérentes à la vie, mais quand on est petit, on les vit peut-être plus difficilement. En tout cas, à l'école, les enfants entre eux ont des manières de les gérer qui sont parfois peut-être un peu plus brutales et plus souffrantes.
Ça existe encore, les clichés sur les blondes ? Les blagues de blondes, les trucs
en
comme
fait,
ça ?
En fait, oui, c'était en fait, c'était pas vraiment Petite Blonde, c'était pas pour un cliché de blonde, parce que je crois que j'ai pas vraiment à me plaindre, mais c'était plutôt sur la différence qu'on peut avoir quand on est hypersensible, quand on se sent différent émotionnellement, et c'était, ça, c'est Petite Blonde, mais ça aurait pu être petit plein de trucs, c'était vraiment une manière, comme un enfant pourrait dire Petite Blonde ou petit truc, et c'était...
Comment elle se manifeste, cette sensibilité ? Ce que tu appelles cette hypersensibilité ?
Ouh là là, c'est un gros sujet.
Bah ouais, on va y aller. Let's go. Mets ton parachute, on chute.
Alors déjà, je crois qu'on a pas, on a l'impression de ressentir tout plus fort, tout plus que tout le monde, de capter des choses avec tous nos sens qui sont exacerbés. Et ce qui fait que parfois c'est difficile pas d'être au contact de gens ou de pouvoir évoluer avec un groupe, dans un groupe. Quand on sent ce que l'autre pense, sans que... Enfin, c'est, voilà, je rentre dans mon hypersensibilité, donc c'est dur d'en parler, mais quand on sent ce que l'autre pense, alors que l'autre ne sait pas ce qu'on sent, ce qu'il pense, c'est hyper compliqué ce que je dis, mais...
Non, c'est très clair.
Ça crée des rapports qui peuvent être un peu compliqués, et donc la personne hypersensible peut avoir du mal à se comporter.
Et comment est-ce qu'on donne sa confiance quand on est comme ça ? Comment est-ce que tu fais pour donner ta confiance ?
Je pense que c'est du temps, c'est de l'apprentissage aussi, c'est des expériences, c'est du coup se faire confiance et savoir à qui la donner ou pas, et toujours avoir ce recul de se dire que de toute façon, tout peut changer, rien n'est acquis et que on peut être déçu tout le temps, de toute façon.
Mais Jany, est-ce que tu es tout le temps sur tes gardes ? Est-ce que tu es en hyper-vigilance ?
Ah, pas du tout.
Pas du tout ?
Pas du tout, parce que du coup, moi, je donne tout, et puis tant pis, en fait. Si ça va pas, ça va pas, et je me relève et tout va bien. Mais j'ai arrêté de me mettre des barrières et de moins donner, parce que du coup, on vit pas pleinement, et c'est moins intéressant.
Comment est-ce que tu as réussi à franchir ce pas-là ? Ça a été quoi, le déclic ?
En rencontrant des gens super.
Ouais. C'est quoi quelqu'un de super ?
C'est quoi quelqu'un de super ? Pour moi, en tout cas, c'est quelqu'un évidemment de gentil, de bienveillant, d'à l'écoute, surtout. de présent, de drôle. Je sais pas, être honnête et de clairvoyant.
Et ben ça donne envie d'écouter Le Prénom de l'amour.
Tu portes le prénom de l'amour. Faut dire que t'en as la gueule et les contours. Tu portes la romance et les bouquets de roses que l'on offre en février. Tu portes les cheveux longs et bouclés et puis une boucle d'oreille sur le côté. Tu portes la sagesse et la bonté, presque aussi bien que tes survêtes préférées. Tu portes de l'attention aux gens que tu aimes, et je sais que t'as à cœur qu'ils s'en souviennent. Tu portes un air malicieux et taquin, dans tes yeux que l'on aime colorer de vert sapin. Tu portes le même parfum citronné depuis 4 ans. Mon Dieu, que j'aime me lever dedans. Tu portes des grains de beauté un peu partout. T'en as tellement que ça te rend fou. Tu portes le prénom de l'amour. Valentin, c'est joli, c'est fait pour. Les cœurs autocollants affichés sur les boulevards, que les gens seuls regarderont pleins d'espoir. Tu portes le prénom des amoureux, des gens qui s'aiment, qui n'ont qu'un seul désir pour deux. Comme cette sublime chanson de William Shaler, que je t'ai souvent chantée pour te plaire.
On vient d'écouter Jeannie avec Le Prénom de l'amour. Jeannie, dans ce morceau, tu dis « Tu portes le prénom des amoureux, des gens qui s'aiment, qui n'ont qu'un seul désir pour deux. » Comme cette sublime chanson de William Shaler que j'ai souvent chantée pour te plaire. Alors, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets dans le morceau.
C'est vrai.
C'est quoi déjà le prénom de l'amour ?
Ben, c'est Valentin.
Ouais.
C'est mon amoureux. Mm-hmm. Donc, cette chanson, c'est le cadeau que je lui ai fait pour la Saint-Valentin l'année dernière. Voilà, je trouvais qu'il méritait sa petite chanson des amours.
Alors, comment il l'a perçu, Valentin, sa chanson ?
Bah, très bien, hein. Très très bien. J'avais mis l'ordinateur sur le lit avec un casque et il était rentré en fin de journée. Et je lui ai dit, voilà, ton cadeau t'attend là, dans ce casque. Et...
Il a chialé ou pas ?
Ouais, il a chialé. Il n'a pas pu l'écouter pendant longtemps d'ailleurs.
Il a pleuré de ouf.
Ouais, il a pleuré.
En boule ou normal ?
je vais pas lui taper la fiche comme ça.
Non. Est-ce qu'il s'est mis contre un oreiller ou...
Non, pas du tout. Non. Il s'est plutôt assis au bord du lit, tu vois.
Il a pleuré digne.
Il a dit genre...
Ouais. Ouais.
Wow.
Et il en a parlé à ses potes ? Les gars, c'est ma chanson.
Bah, de toute façon, elle est sortie. Donc voilà, quand on voit le prénom de l'amour et qu'on sait qu'il s'appelle Valentin, il n'y a pas vraiment de loup. Quoi.
Tu peux nous faire un extrait a cappella de la chanson de William Shaler ? Parce que moi, j'adore William Shaler.
Et si ça ne vaut pas la peine que j'y revienne, il faut me le dire au fond des yeux. On pourrait se faire sans que ça gêne de la place pour deux.
C'est magnifique, William Shaler.
C'est sublime.
Et quand c'est Jeannie qui chante, c'est pas mal aussi.
C'est gentil.
Qu'est-ce qui te touche dans la musique de William Shaler ?
En fait, moi j'ai une vraie dualité avec la musique de William Shaler. Mm-hmm. Plus je l'écoute, plus en fait, y a des morceaux dont je suis absolument amoureuse. Et d'autres où j'ai du mal dans les harmonies, parce que William Shaler, il a des harmonies, des résolutions d'accords qui, moi, ne me touchent pas autant que un berger, par exemple. C'est pas aussi évident. Et parfois, je suis très frustrée quand j'écoute sa musique parce que j'ai envie d'entendre une résolution parce que c'est sublime et elle n'y arrive pas. Et du coup, j'ai envie de lui parler et de dire, s'il te plaît, tu peux me faire une version juste pour moi avec la résolution. Et donc voilà, j'ai cette dualité, mais c'est pas grave. Hein.
Berger, t'as repris une chanson de Michel Berger qui a été écrite par Michel Berger. C'est Mes chasses personnelles et c'est ça.
Si tu crois un jour que tu m'aimes, ne crois pas que tes souvenirs me gênent. Il court jusqu'à perdre haleine. Viens me retrouver. Si tu crois un jour que tu m'aimes, et si ce jour-là tu as de la peine à trouver où tous ces chemins te mènent, viens me retrouver.
c'est Janie qui reprend Message personnel et je vous propose d'écouter ce soir dans Verveine Underground l'original Michel Berger et Françoise Hardy, Message personnel.
Mais si tu crois un jour que tu m'aimes, ne crois pas que tes souvenirs me gênent et cours, cours jusqu'à perdre haleine, viens me retrouver. Si tu crois un jour que tu m'aimes et si ce jour-là tu as de la peine à trouver où tous ces chemins te mènent, viens me retrouver. Si le dégoût de la vie vient en toi, si la paresse de la vie s'installe en toi, pense à moi, pense à moi.
On vient d'écouter Françoise Hardy avec Message personnel. Qu'est-ce qu'il a de beau pour toi, Janie ? Pourquoi t'as mis ce morceau dans ta playlist ? Je tiens à dire, ce soir, la playlist de Janie est mortelle, on va quasiment tout écouter.
Trah, c'est gentil. Je trouve que c'est une sublime déclaration d'amour et je pense que peu importe la situation amoureuse dans laquelle on se trouve, on peut se l'approprier, que ce soit si on n'est plus avec quelqu'un ou si on est avec quelqu'un, et lui dire simplement si tu m'aimes, alors c'est simple. Viens, on se retrouve et viens, on vit une belle histoire d'amour. Et je trouve que c'est, comme à l'habitude de Michel Berger, si bien écrit, si pur. Et on ressent, les émotions sont directes.
Parce que c'est pas une chanson d'amour, c'est une chanson d'un mec qui s'est fait têche. clairement,
oui.
Il s'est clairement fait têche et il veut revenir.
Ouais, mais il lui envoie un message d'amour et lui dit « Je t'attends, si t'es pas heureux dans ta vie ou si t'es pas heureux, ben... » je suis là, quoi.
Tu crois qu'on peut se remettre ensemble après une rupture, toi ?
Ouais.
Ça t'est déjà arrivé ?
Ouais.
Et ça marche ?
Je pense que ça dépend.
Ouais, tu vois, dis la vérité.
Non. Je pense que ça dépend. Je sais pas. En fait, ça dépend les raisons pour lesquelles on se remet ensemble. Moi, je me suis remis avec des gens, pas pour les bonnes raisons, mais pas pour des raisons amoureuses forcément, mais peut-être plus...
Par habitude ?
Non, plus humaine.
D'accord.
Mais ce qui a donné des belles relations par la suite. Donc finalement, je regrette pas. Après, je crois qu'il n'y a pas de mode d'emploi dans l'amour. Hein.
Donc, quand on se fait têche, on peut revenir.
Ouais, si c'est pour les bonnes raisons, ouais. Et puis, parfois, c'est pas tout résolu, donc il faut aller au bout.
Ouais, parce que des fois, le têchement peut provoquer la remise en question.
Le têchement, complètement.
Ah ouais, c'est vrai. On écoute un extrait de ta playlist qui est canon. Janie a choisi France Gall avec Monopolis.
Dans les filles.
France Gall, Monopolis, choisi par notre invité ce soir, Janie. C'est une chanson de 1979 dans laquelle France Gall chante « Dans les villes de l'an 2000, la vie sera bien plus facile. On aura tous un numéro dans le dos, une étoile sur la peau. On suivra gaiement le troupeau dans les villes de l'an 2000. » Waouh. Hardcore quand même.
Bah ouais, comme un peu toute la vision de cette comédie musicale qui est Starmania. Hein, mais moi, je trouve que c'est des chansons qui sont quand même bien actuelles encore. Donc,
comment est-ce que ta génération t'arrive à la chanter, toi ? Qu'est-ce qu'elle a de différente de ce que chantait France Gall ? Qu'est-ce qu'elle a de différente de celle de tes parents ? Qu'est-ce qu'elle a de différente de la mienne ?
Ça dépend de quel... par quel prisme on prend cette question, parce que je crois que les émotions, si on chante les émotions, elles sont toujours les mêmes. Après, si on parle de société, de politique, là, c'est différent, évidemment. Mais c'est moins mon domaine.
Ouais, tu t'en fous ?
Non, pas du tout.
Non, pas du tout.
Ça fait partie de l'hypersensibilité, c'est se protéger pour éviter de se confronter et de souffrir.
Parce que ça peut t'envahir trop vite.
Ouais, ça m'angoisse de fou.
Moi, je fais pareil. Hein. Quand je vois une chaîne info, je débranche tout de suite.
C'est l'angoisse et c'est trop de choses. Du coup, c'est un peu faire l'autruche. Je ne sais pas si c'est bien, hein, j'y travaille, mais ouais, je préfère.
La musique, c'est une bonne solution pour fuir l'angoisse, Janie ?
Complètement.
Ouais.
Complètement. C'est hyper salvateur, déjà, dans toute... dans la résolution des angoisses, dans l'expression des émotions, des sentiments, le fait d'écrire, de lâcher, comme on peut lâcher dans la danse, on en parlait tout à l'heure. Ouais, moi, ça les calme. Après, ça les calme quand la chanson est terminée, quoi. Ouais. Parce que parfois, quand on les écrit, c'est 10 fois pire, mais c'est ça qui est beau aussi.
Et est-ce que lorsqu'on embrasse la carrière d'artiste, il y a des angoisses qui naissent ?
Oh bah, évidemment.
Ouais.
Évidemment.
Lesquelles ?
Déjà, est-ce qu'on va toujours réussir à faire des chansons ?
Est-ce qu'on aura toujours l'inspiration ou l'opportunité de le faire ? Dans quel sens tu dis ça ?
Oh, l'inspiration, parce que l'opportunité, de toute façon, ça tient qu'à soi-même de faire une chanson devant un piano. Donc voilà, après, si elle est écoutée ou pas, oui, ça c'est autre chose. Mais il y a cette angoisse-là, mais je pense que. En fait, il faut vivre pour écrire des chansons. Donc, si on continue à vivre, il n'y a pas de problème. Après, c'est très vaste, hein, les angoisses, évidemment, de contrôle aussi, de ne pas être assez bien, de contrôler tous les pans de tout ce qui est d'être un artiste. Voilà, il y a la musique, il y a l'image, il y a les médias, il y a plein de choses et ça repose sur une seule personne. Donc, c'est un rapport à soi qui peut être plus angoissant.
Quand on est artiste solo comme toi, ouais. Est-ce qu'on peut avancer sans une équipe ?
Non, pas du tout.
Qu'est-ce qu'elle fait l'équipe autour de toi ? En quoi elle t'accompagne ? C'est qui ? C'est comment ça se manifeste ? À qui tu peux parler à 1h du matin quand t'es en angoisse, par exemple ?
Bah, Isabelle, ma manageuse, hein. Évidemment, je crois que c'est...
Force à toi.
Non, mais je crois que c'est hyper important d'être bien entouré, peut-être pas par beaucoup de personnes, mais en tout cas par quelques-unes avec qui humainement c'est. Je pense que c'est le premier point, quoi. Il faut qu'humainement ce soit très juste pour qu'ensuite on puisse bien travailler ensemble. Après, le reste c'est.
Et c'est quoi le rôle d'un manager ? C'est quelqu'un de protecteur ou c'est une oreille ?
Oh là, c'est tout ça, c'est même bien plus, il y a beaucoup de... Enfin, je pense que... Je ne sais pas si j'ai le droit de décrire ce métier, parce que oui, à la fois, il y a l'accompagnement de l'artiste, l'écoute, la vision artistique. Il faut aussi, je pense, savoir aller parler à tout le monde. Je pense qu'il faut un profond amour pour la musique et les artistes. Je crois que c'est ça.
J'en parle parce qu'en fait, en France, le manager, il a un statut un peu ingrat par rapport aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est cadré, c'est codifié.
Ouais.
Et en France, le manager, c'est celui qui a tous les problèmes et rarement les avantages. C'est celui qui se mange souvent toutes les galères, quoi.
Bah, peut-être que les artistes n'impliquent pas assez les managers dans les bons côtés de nos métiers.
Donc ça ressemble à quoi une conversation à 1h du mat avec ton manager ?
Ça dépend du problème.
C'est quoi ? C'est Isa, assis-toi, il faut que je te parle, j'ai passé la journée dans le noir, ça commence comme ça ?
Ouais, ça peut être ça. Ouais. Ou ça peut être j'ai une super idée, on en parle et on monte ça ensemble. Et, en fait, c'est un peu tout, quoi. C'est un 360 sur la vie parce que, et ma manageuse me le dit souvent, accompagner un artiste, c'est oui, accompagner sa carrière artistique, mais c'est l'accompagner aussi lui ou elle en tant qu'être humain, parce que tout est lié, en fait, nous, dans nos métiers, les émotions et ce qu'on vit, c'est lié à ce qu'on va donner à notre création, donc ça ne peut pas être délié.
Tu as amené une playlist qui est magnifique, avec un morceau sublime, c'est un morceau de Ben Mazuet. Qui s'appelle Des Nouvelles, on en parle dans un instant.
De ton époque, il y a toujours, toujours la radio le matin, les odeurs de figues fin août qui disent que la rentrée n'est pas loin. Le verre de vin de 19h, les heures à parler avec ma sœur, faire des projets, comme tu disais, ça on le fait, ouais, je te promets. Mais de ton époque, il n'y a plus la maison qui rassemblait, nos convictions ont disparu et tous les schémas ont déçu. Alors on s'efforce de profiter, chacun chez soi, c'est dramatique. Le bonheur est privé, le malheur est public.
On vient d'écouter Ben Mazuet avec Des Nouvelles dans Verven Underground, choisi par Jani. C'est un morceau très particulier, très dur. C'est un morceau qui parle du deuil de sa mère. Toi, t'as aussi un rapport au deuil parental compliqué, Janie. T'as perdu ton papa.
Ouais, complètement.
Est-ce que c'est des choses sur lesquelles écrire est concevable et salvateur et difficile, libérateur?
Bah, tout ce que tu viens de dire.
Ouais, c'est tout voilà. Ça à la fois.
C'est tout ça à la fois. Et cette chanson de Ben Mazieu, elle m'a évidemment retournée. Puis c'est lui, c'est sa façon d'écrire, de voir les choses. De toute façon, c'est sublime. Je pense que c'est ouais, effectivement très difficile de t'écrire sur ça parce que c'est tellement... j'aime bien comparer ça tout le temps à un tatouage, quoi. C'est vraiment le truc, il faut que ce soit le bon dessin, le bon endroit, le bon truc, parce que ça va rester à vie et que c'est quelque chose qui doit être sacré presque. Donc c'est dur.
Et Janie, comment on vit quand on arrive à écrire sur des émotions aussi fortes, quand le public s'empare de ces émotions-là?
Ah bah là, c'est le plus merveilleux. C'est pour ça qu'on... Enfin, moi, c'est pour ça que je vis presque, quoi. Enfin, quand les émotions résonnent avec celles des gens, c'est tellement puissant, c'est tellement déjà surprenant, parce que moi, je pensais pas, quand j'écris mes chansons, je pense pas qu'un jour, les gens vont les écouter, donc... Mais c'est, je sais pas, c'est presque au-delà, c'est un truc qui est un peu mystique, quoi. C'est un truc qui passe et en même temps c'est très pur, c'est très direct. Enfin, je sais pas, c'est fou, quoi.
Janie, est-ce que la chanson guérit? Est-ce qu'une chanson peut guérir la personne qui l'écrit, qui la chante?
Ah, complètement.
Ouais.
Complètement. Moi, il y a des chansons que j'ai écrites en 3 ans parce que. Par exemple, le sujet n'était pas, ou l'émotion n'était pas encore complètement vécue, ou le sujet pas complètement réglé. Et c'est un accompagnement, c'est presque une thérapie, une chanson, parfois. Et puis parfois, ça permet de faire passer des messages à des gens qu'on aime, ou des choses qu'on n'a pas réglées. C'est plein de choses, mais ouais, moi, je guéris avec mes chansons, ça, c'est clair et net.
Janie, ça a été quoi la chanson qui t'a le plus guéri?
Mon idole, je crois.
Raconte-moi.
Bah, c'est justement la chanson que j'ai écrite pour mon papa. Et en fait, je ne sais pas si elle m'a guérie. En tout cas, elle m'aide à garder mon père avec moi tout le temps et à concevoir le deuil d'une manière peut-être plus douce et plus dans l'hommage et dans le souvenir que dans quelque chose de compliqué, parce que moi j'ai eu un deuil qui a été très long, donc c'était compliqué pour moi, et cette chanson, elle, c'est un baume pour moi, et je sais pas.
C'est un morceau que tu vas nous interpréter en live dans un instant.
Tout à fait.
Quelle dose de... Ouais, par exemple, tu pourrais pas avoir ton courage d'aller chanter un deuil, hein, c'est un truc comme ça, un morceau qui était dur à écrire. Qu'est-ce qu'on prend sur soi pour aller chanter ça?
Bah justement,
quelle énergie il faut, en fait?
Bah on prend le bon côté. On prend l'hommage, on prend le joli souvenir, on prend le fait que les personnes sont encore là quelque part. Si au début je pouvais la chanter avec énormément de tristesse, là je la chante plus avec un sourire regardant vers le ciel. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais je sais pas, c'est le moment que j'ai avec lui presque, et avec nos souvenirs, et de toute façon c'est comme ça, j'ai compris que je pourrais rien y changer, donc autant lui rendre hommage avec ce que je préfère, faire de la musique et le faire bien, quoi.
Janie, tu penses que les personnes qui nous quittent, les personnes qui décèdent, sont encore avec nous?
Ouais.
Comment ça s'exprime?
Bah, je sais pas, moi je pense que, genre, j'ai pas de théorie là-dessus, parce que s'il y en avait une certaine, tout le monde serait content. Mais moi j'ai plein de signes, plein de choses au quotidien. Je sais que, je sais pas comment ni où, mais je sais que les gens sont encore là et qu'ils nous protègent, que quand on sait écouter les signes et regarder, on les perçoit.
C'est quoi le dernier signe que tu as perçu dans la vie, Janie?
Peut-être que c'est en rapport avec les coccinelles. J'ai acheté, il y a 2 ans, Alors, ça a commencé là, mais du coup, là, l'histoire se poursuit. Mais il y a 2 ans, j'ai acheté mon premier piano acoustique pour chez moi. Et je suis allée dans une boutique Boulevard Beaumarchais à Paris, dans une boutique de piano d'occasion. Et il y avait un piano au fond de cette boutique qui faisait partie du décor. Bref, j'y vais, je voulais trop celui-là parce qu'il était super beau. Je joue. Et lorsque je joue sur ce piano, il y a une petite coccinelle qui vient se poser sur le piano. Et c'était le 11 juin, c'était la date de l'incinération de mon père. Je n'avais pas fait attention. Et du coup, je suis repartie avec ce piano. Et ensuite, les mois qui ont suivi, à chaque fois que j'avais des grosses échéances ou des trucs importants, il y avait tout le temps une coccinelle qui arrivait. Par exemple, quand j'ai fait le premier Zénith en première partie de Vianney, j'étais en train de fumer une cigarette sur le parking et c'était l'hiver. Enfin, il n'y avait aucune raison d'avoir une coccinelle devant le Zénith de Amiens, je crois. Il y a une coccinelle qui est arrivée, quoi. Et pareil, quand j'ai tourné le clip de Piano Coccinelle, on a cherché des vraies coccinelles partout pour mettre dans le clip. Jamais. On en a trouvé. Et dernière scène, à 20h30 sur le toit de Molitor, on tourne cette scène et il y a une coccinelle qui arrive, quoi. Et c'est des trucs comme ça, c'est... Voilà, là, c'est avec un petit animal, mais ça peut être plein de choses. Parfois, à mes anniversaires, une fois, j'ai un ballon qui est monté, qui était dans l'hélium, enfin, qu'il y avait de l'hélium, mais je veux dire, il est monté dans la maison avec tous les escaliers, il est venu me taper, quoi. Enfin, il n'y a pas de raison, quoi, qu'il parcourt toute la maison pour venir, moi, me frapper alors que j'étais en train de regarder une photo de moi enfant. Enfin, il y a plein de choses comme ça, il y a plein de signes, et je pourrais t'en raconter 15 000, mais... Voilà, il y a plein de choses comme ça. Et puis, d'une certaine manière, je me sens protégée.
Eh bien, on espère que les coccinelles te protégeront longtemps. Jeannie, dans un instant, tu vas nous chanter ce morceau, Mon Idole, qui est un morceau sublime. Moi, il m'arrivait un signe un peu bizarre. L'autre fois, je me baladais. Et tout d'un coup, il se met à neiger, alors qu'on était au mois d'août. Qu'est-ce qui se passe? Il neige. Et là, dans la neige, il y a quoi? Un mec tout nu. C'est Vianney, tout nu dans la neige, sur Europe 1.
Moi je suis devenu si fort, si seulement tu me voyais. C'est fou comme les gens ignorent qu'il m'arrive de tomber. Coule des océans, de mes yeux à mes arpèges. Souvent sans toi je me sens comme tout nu dans la neige.
On vient d'écouter Vianney, tout nu dans la neige, choisi par Jeannie. Pourquoi ce morceau, Jeannie ?
En fait, lorsque Vianney a sorti son dernier album, je l'écoutais chez moi, je l'ai mis comme ça. Et puis, première écoute, j'étais pas hyper attentive, je faisais d'autres choses, etc. Et puis, cette chanson est arrivée et elle m'a touchée directement. Mmh. Et j'ai pas écouté vraiment les paroles et tout. Et j'ai dit,
on le rappelle, hein, ça parle pas spécialement d'un mec tout nu dans la neige.
Ben pas du tout.
Ouais,
mais l'image est très belle parce que l'image d'un homme tout nu dans la neige ou d'une personne, c'est quelqu'un de démuni et de démuni. Non, mais en tout cas où il y a plus rien, où les émotions sont très pures. Mmh. Et j'ai demandé à remettre cette musique. Et je l'ai écoutée 2-3 fois et j'ai compris pourquoi elle me touchait, parce qu'évidemment elle parle aussi du deuil. Et je sais pas, je crois que c'était un morceau où Vianney, j'adore cette phrase quand il dit « C'est fou comme les gens ignorent qu'il m'arrive aussi de tomber ». Je trouve que c'est un morceau où il se met complètement à nu, pour le coup, et où il raconte très bien comment on peut se sentir seul, et seul quand on perd les gens qu'on aime. Et j'ai trouvé ça sublime. Et voilà, Vianney a toujours une manière de raconter les choses, pour moi, qui est un peu, dans ma sensibilité, un peu comme Berger. C'est très pur, c'est très, très proche. Les mots sont très justes. Voilà, donc cette chanson m'a touchée, comme beaucoup de Vianney, mais celle-ci encore plus.
Vianney, il a aussi un rapport intéressant à la foi.
Ouais.
C'est quelqu'un qui n'hésite pas à parler de sa foi, du rapport à Dieu. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui te porte, la foi?
Alors, pas la foi religieuse, forcément. La vie, ouais, la foi en la vie, ouais, complètement.
Ça se manifeste comment? Tu dis, ok, je crois que c'est les choses qui arrivent font partie de l'univers, qu'il y a quelque chose qui nous porte, qui nous guide.
Oui, moi je crois qu'on est à 2% de savoir et d'avoir conscience de tout ce qui nous entoure, ne serait-ce que par des choses physiques dont on n'a pas conscience. Donc je me dis que doit y avoir tellement, tellement de choses qui nous portent sans qu'on y ait encore accès mentalement aujourd'hui, quoi.
Tu penses que le fait d'utiliser que si peu de pourcentage de son cerveau amènera des super humains à l'avenir qui vont maîtriser de plus en plus leurs capacités cognitives ?
Oh là, l'avenir, je sais pas. je ne m'aventure pas sur ce terrain, mais voilà.
Janie, on va écouter un live de mon idole tout de suite dans Verven Underground.
Okay.
On est très content de passer cette heure avec toi.
T'es mon idole. Préféré. Je revois tes yeux bleus remplis de feu qui me regardent de moi. T'es mon idole. Ah, le plus fort de tous les hommes.
C'était Janie en live sur Europe 1 pour un morceau sublime. Ne bougez pas, Verven Underground continue juste après le flash.
Verven
Underground.